Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous êtes tous bien rentrés de la fête. Nous avons passé une bonne et une belle fête. Tout était réuni pour que nous ayons une nourriture spirituelle abondante. Dieu nous a bénis avec le temps. Il y avait une belle fraternité, de l'abondance physique, et nous avons pu nous réjouir tous ensemble. À l'époque d'Ézéchias, quand les Juifs ont observé la fête des pains sans levain, ils se sont mis d'accord pour observer 7 jours de plus après les pains sans levain. Nous aussi, on aurait bien voulu y rester 7 jours de plus, mais les fêtes sont terminées. Les fêtes sont finies et nous pouvons nous poser la question, pourquoi rentrons-nous de la fête? La fête est une période de renouveau spirituel. Notre vision est renouvelée et nous mettons l'accent sur le royaume de Dieu. Nous nous réunissons pour avoir l'instruction spirituelle et pour un renouvellement, pour se fortifier. Et toutes les conditions, comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les conditions sont réunies. On vient devant Dieu, les messages qui sont donnés, c'est pour notre bien. Nous nous isolons du monde et nous nous concentrons sur l'essentiel. Nous avons, bien sûr, nous sommes avec des frères, c'est ce qui nous encourage beaucoup. Mais quand nous revenons de la fête des tabernacles, il n'est pas rare d'avoir des passages à vide au cours de l'hiver. L'hiver va s'installer. Le soleil va se cacher un peu plus, et parfois il y a le découragement qui s'installe aussi. Mais nous avons besoin de continuer notre cheminement spirituel. Nous avons besoin de progresser. Et il nous faudrait donc éviter des passages à vide. D'un certain point de vue, quand nous revenons de la fête, nous sommes à la croisée des chemins. La croisée des chemins parce que soit notre nature humaine va prendre le dessus et nous risquons donc de devenir découragés, soit sciemment nous choisissons cette opportunité, cette période au cours de l'hiver pour croître. Et la fête devrait être une base pour une croissance réelle dans les mois à venir, jusqu'aux prochaines fêtes, au moment du printemps. Du reste, pour les fêtes de printemps, pour la Pâque, nous savons que nous nous examinons au préalable. Et là, si nous avons fait du progrès, si nous avons avancé spirituellement, nous allons pouvoir voir le progrès que nous aurions fait. Bien sûr, il y aura encore des choses à vaincre, il y a encore des choses que nous devons voir dans nos vies, mais cela va nous encourager de voir nos progrès. Ça peut être une période faste, si nous savons l'utiliser convenablement. Rapportons-nous à 1 Pierre chapitre 2, et le verset 1. 1 Pierre chapitre 2, verset 1. Pierre, chapitre 2, verset 1, nous lisons ceci. « Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés les spirituels et purs, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Nous avons donc l'occasion de croître. « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et nous avons été édifiés à la fête des tabernacles. Une des grandes leçons de la Bible, c'est l'encouragement que Dieu nous donne quand nous mettons l'accent, quand nous gardons nos yeux sur lui et sur son royaume. Nous sommes dans Pierre. Alors nous allons maintenant à 2 Pierre chapitre 1. On va tourner quelques pages. 2 Pierre chapitre 1 et le verset 10. 2 Pierre chapitre 1 et le verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. Et nous avons besoin donc d'affermir notre vocation et notre élection pour ne plus ou ne pas brancher. Verset 11. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Nous venons de vivre à la fête des tabernacles une expérience très riche, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan physique. Nous nous sommes présentés devant Dieu, nous sommes venus en sa présence pendant 8 jours, et nous avons pu approfondir notre relation personnelle avec Dieu. Et si, au cours de l'année, nous avons été affaiblis sur le plan spirituel, nous avons pu reposer des bases, recentrer notre vie sur Dieu, et avancer, recommencer à avancer spirituellement. Nous avons entendu des messages qui brossaient des tableaux du royaume et comment le royaume sera, et nous avons réussi notre fête en servant Dieu et en servant les autres. Nous avons pu avoir nos yeux fixés sur Dieu. Je pense que nous sommes très conscients que Dieu est en train de créer en nous son caractère divin. Et une des raisons pour laquelle nous rentrons de la fête, pour reprendre le titre du sermon, pourquoi rentrons-nous de la fête, une des raisons pour laquelle nous rentrons, c'est que Dieu veut que nous construisions ce caractère divin au cours de l'année. Dieu veut trouver des enseignants qui connaissent sa voie, qui l'ont pratiquée dans leur vie et qui ont récolté des fruits. Dieu, bien sûr, veut la qualité. Et il veut trouver la qualité chez nous. Et quand nous pratiquons vraiment la voie de Dieu dans nos vies, nous pouvons vraiment aider les autres. Et nous pouvons mieux nous préparer pour le royaume. Donc il est important pour nous d'être concernés par le fait de développer ces caractères divins. C'est nécessaire pour que nous puissions entrer dans le royaume. Nous avons probablement encore en tête certains sermons de la fête, des sermons qui nous ont inspirés, qui nous ont motivés. Apportons-nous à Philippiens chapitre 4, à partir du verset 8. Philippiens chapitre 4 et le verset 8. Philippiens 4, 8. Nous lisons ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et nous avons entendu des choses très positives à la fête des tabernacles. Verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, son exemple personnel, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. La vision du royaume que nous avons eue à la fête devrait nous encourager à pratiquer la voix de Dieu pour pouvoir l'enseigner plus tard à d'autres. Donc, cette inspiration que nous avons ressentie à la fête devrait rester avec nous. C'est important de garder l'élan parce que nous avons demandé à ce que Dieu inspire ses serviteurs quand il prêche et que son peuple soit attentif à ce que Dieu a inspiré. Mais nous avons entendu différents messages. Nous devrions étudier les leçons qui ont été données à la fête et chercher à les appliquer avec des buts d'être spécifiques. Il y a des messages qui nous ont peut-être touchés de près, que ce soit à propos de la famille, des luttes personnelles ou la compréhension à propos de certaines choses. Mais il faut que nous puissions mettre l'accent sur les choses spécifiques tout en gardant le royaume de Dieu en tête et de fortifier notre résolution. Rapportons-nous à Philippiens chapitre 1, verset 6, si vous voulez bien. Philippiens chapitre 1 et le verset 6. Philippiens chapitre 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, parce que Dieu travaille avec nous, il travaille dans nos vies pour que nous puissions progresser spirituellement. Donc je reprends. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ, pour que nous puissions être dans le royaume. Nous avons beaucoup investi pour pouvoir venir à la fête. Nous avons investi du temps, nous avons investi de l'effort, de l'argent, et peut-être même nous nous sommes sacrifiés pour pouvoir venir à la fête et de pouvoir passer une bonne fête, pour pouvoir nous réjouir devant Dieu. Et nous nous sommes investis peut-être aussi beaucoup à la fête même. Sur un plan pécunier, quand nous investissons, quand nous faisons un investissement, nous sommes en droit d'attendre un retour sur notre investissement. Sinon, nous n'aurions pas fait l'investissement en question. Et quand nous sèmons, nous nous attendons à une récolte. Sur le plan spirituel, la fête des tabernacles, c'est aussi pour que nous puissions porter des fruits. Des fruits en plus des fruits que nous avons déjà portés. Quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils étaient exubérants. Ils sont sortis, vous rappelez l'expression, la main levée. Ils ont même accepté une alliance avec Dieu. Regardons ça dans Exode chapitre 24 et le verset 7. Exode chapitre 24 et le verset 7. Exode 24, verset 7. Il prit le livre, c'est Moïse qui, verset 4, on voit ça, Moïse qui écrivait toutes les paroles de l'Éternel. Puis verset 6 déjà, Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. La réponse du peuple, il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Donc, ils ont accepté cette alliance, mais nous voyons bien, en regardant la suite de l'histoire, que ce qui manquait, c'était le désir du peuple d'Israël, c'était le désir d'être en la présence de Dieu. Du reste, au mont Sinaï, quand Dieu est descendu sur le mont Sinaï, ils avaient peur. Et ils n'étaient pas vraiment à l'écoute de Dieu. Ils ne voulaient pas cette présence de Dieu étroite dans leur vie. Et par la suite, ils se sont détournés rapidement, promptement de Dieu. Ils n'avaient pas la motivation, un désir pour contrer leur nature humaine. Et bien sûr, ils n'avaient pas non plus l'Esprit de Dieu. Le résultat, c'est qu'ils se sont promptement écartés et ils ont rapidement fait un veau d'or comme Moïse est monté sur le mont Sinaï. Notre relation avec Dieu, c'est quelque chose que nous ne devrions jamais prendre comme allant de soi. Nous devons constamment investir dans ce domaine pour que notre nature humaine ne prenne pas le dessus. Que nous ne soyons pas influencés par un esprit négatif. Et c'est là qu'il faudrait tirer profit au maximum de nos expériences à la fête, de ce que nous avons entendu, ce que nous avons vécu, et tout le bien que cela nous a fait, pour pouvoir donner une direction spécifique à nos vies. Nous connaissons bien Matthieu chapitre 6 et le verset 33. Matthieu chapitre 6, on le connaît probablement pas que, mais j'ai voulu m'y rapporter quand même. Matthieu chapitre 6 et le verset 33. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et à la fête, nous avons pu voir davantage, avoir davantage un aperçu du royaume de Dieu, de tout ce que ça représente. Ce n'est pas facile de mettre en pratique Matthieu 6, verset 33. Ça demande de la concentration, ça demande de la motivation, et ça demande le fait de marcher avec notre Dieu. Mais la fête des tabernacles, c'est quelque chose qui nous aide à mettre Matthieu 6, 33 en pratique. Et c'est pour cela que nous rentrons de la fête, pour pouvoir mettre Matthieu chapitre 6, le verset 33, davantage en pratique. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne pas s'inquiéter du lendemain, parce que nous cherchons le royaume et la justice de Dieu. De poursuivre, de rechercher des buts spirituels pour que les bénéfices de la fête ne s'estompent pas, ne disparaissent pas. Et que nous désirons toujours être proche de Dieu et de s'approcher de Dieu. La fête des tabernacles devrait aussi fortifier notre homme intérieur, pour employer un langage biblique. Parce que, quand on réfléchit bien, on rentre de la fête, mais nous revenons dans le même monde. Nous rencontrons probablement les mêmes difficultés qu'avant, les mêmes problèmes que nous avons laissés derrière nous, tout au moins temporairement, et peut-être, probablement, notre lot dans la vie n'aura pas changé, ne va pas changer quand nous revenons de la fête. Il faut donc pouvoir faire face, et il faut pouvoir avancer et vaincre. Et pour cela, et c'est aussi un clé de la fête, il faut être fortifié intérieurement. Reportons-nous à Éphésiens chapitre 3, si vous voulez bien, Éphésiens chapitre 3 et le verset 14. Éphésiens chapitre 3 et le verset 14. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Et c'était le désir de l'apôtre Paul pour ses ouailles, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, dans l'homme intérieur. Et ça fait toute la différence. Je me rappelle quand j'étais au collège, je parlais à un moment donné avec un autre étudiant, et nous avons abordé le sujet de jeûner. Et nous étions tous les deux d'accord, sur la même longueur d'onde, que lorsqu'on jeûnait, on voyait les choses différemment. Et que les problèmes, les difficultés, on les voyait aussi différemment. Pourquoi? Parce que nous avons été fortifiés, parce que l'homme intérieur avait été fortifié à ce moment-là par le jeûne. C'est le but du jeûne, c'est pour qu'on soit plus proche de Dieu. Et donc, on reçoit l'aide de Dieu et on a un esprit plus positif face aux difficultés qui étaient là avant, qui sont là après, mais c'est la façon par laquelle on les aborde et l'esprit avec lequel on les aborde. Et c'est la même chose pour la fête des tabernacles. C'est que nous avons laissé une situation derrière nous, nous revenons, nous retrouvons la même situation, mais nous avons été fortifiés, l'homme intérieur a été fortifié. C'est ce qui est très important pour la fête des tabernacles. La fête et la vision du royaume que nous avons eue à la fête nous aident à relativiser nos problèmes et de nouveau être motivés pour aller de l'avant. La fête, c'est plus qu'une expérience agréable. C'est une expérience agréable, certes, mais c'est plus qu'une expérience agréable. Et le fait de rencontrer des amis, faire d'autres amis, et le fait de constater que la fête s'est bien passée, que la fête c'est une réussite. Pour que la fête soit vraiment une réussite, pleinement une réussite sur un plan spirituel, il faut que ça aille plus loin. Parce qu'il faudrait que quelque chose qui soit durable et qui reste après la fête. Le fait de faire quelque chose avec ce que nous avons appris et ce que nous avons récolté. Voilà pourquoi nous rentrons de la fête. Pour pouvoir l'utiliser, cette fête, cette expérience, au maximum. Et il y a deux choses qu'on peut d'ores et déjà retenir à ce sujet-là. C'est le zèle qui convient d'avoir quand nous rentrons de la fête. Ce renouveau spirituel que nous avons eu l'occasion d'effectuer, ce nouveau départ qui nous permet d'aller de l'avant et de progresser spirituellement. Et la deuxième chose qu'on peut retenir à propos de la fête, c'est que la fête nous permet d'avoir une vision de la réalité de Dieu et du royaume, d'avoir une vision plus concrète du royaume. Cela nous aide à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, à le rechercher davantage. Et donc la fête devrait être un tremplin pour nous fortifier, pour nous édifier, pour que nous puissions reprendre notre marche s'il y a eu un creux dans notre vie. Parce qu'il est question de notre avenir. Il est question de l'avenir de l'humanité. Et nous devons nous mettre au travail pour porter du fruit, pour être zélés, consciencieux dans le domaine spirituel. Voilà pourquoi nous rentrons de la fête, pour faire ce qui convient de faire. Dans le royaume, nous serons des rois et des sacrificateurs. Mais pour être des rois et des sacrificateurs dans le royaume, il faut se préparer. Et quoi de mieux que la pratique pour pouvoir l'enseigner aux autres, de le mettre en pratique dans nos vies pour être des futurs meilleurs enseignants. Le monde souffre et nous aussi nous souffrons. Mais dans le royaume, l'humanité va cesser de souffrir et nous allons pouvoir commencer à enseigner et à aider les gens. Ce que j'ai voulu faire pour le reste de ce serment, c'est de prendre deux époques où la Bible parle de la fête des tabernacles, quand la fête des tabernacles était observée, et de mettre ces deux époques en parallèle, et nous allons constater une différence entre ces deux époques. La première époque que j'ai voulu prendre, c'est l'époque de Salomon. Deux Chroniques, chapitre 5, et le verset 6. J'ai déjà parlé de Salomon à l'époque, et je voulais aller un peu plus loin, dans un certain domaine. Deux Chroniques, chapitre 5, et le verset 6. Nous lisons ceci. Deux Chroniques, chapitre 5, verset 6. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoquée auprès de lui se tint devant l'arche. Ils sacrifiaient des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de la multitude. C'est la dédicace du temple qui a été suivie par les fêtes des tabernacles. Ils ont donc offert, le peuple a offert énormément de sacrifices à Dieu. Ils étaient tournés vers Dieu. Il y avait la dédicace du temple. Allons maintenant à 2 Chroniques chapitre 7 et le verset 3. 2 Chroniques chapitre 7 et le verset 3. La suite de l'histoire. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre, sur le pavé, se prosternèrent, et ils louèrent l'Éternel en disant, « Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Donc nous voyons ici la disposition d'esprit et de cœur des enfants d'Israël qui était exceptionnelle. La construction du temple a pris 7 ans. Regardons juste en vitesse en Rois chapitre 6 et le verset 38. En Rois chapitre 6 et le verset 38. On va commencer avec le verset 37. La quatrième année, au mois de Ziv, le fondement de la maison de l'Éternel fut posé. Quatrième année donc du règne de Salomon. Et la onzième année, au mois de Boul, qui est le huitième mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties et telle qu'elle devait être. Salomon la construisit dans l'espace de 7 ans. On arrive donc à la 11e année du règne de Salomon. Salomon, à ce moment-là, quand il y avait la dédicace du temple, était encore proche de Dieu. Servait d'exemple pour son peuple. Et le peuple a suivi, comme c'était si souvent le cas avec les enfants d'Israël quand ils avaient un roi. C'est que, après ceci, ils ont observé, après cette cérémonie, ils ont observé la fête des tabernacles. Et ils étaient dans de bonnes dispositions aussi lors de la fête des tabernacles. Chapitre 7. On revient donc à 2 Chroniques. 2 Chroniques. Chapitre 7, 2 Chroniques, chapitre 7, et le verset 10, 2 Chroniques, chapitre 7, et le verset 10. Commençons avec le verset 8, pour voir le contexte. Salomon célébra la fête en ces temps-là, pendant 7 jours, et tout Israël avec lui. Une grande multitude était venue depuis les environs de Hamat jusqu'au torrent de l'Égypte. Le 8e jour, ils eurent une assemblée solennelle, le dernier grand jour donc, car ils firent la dédicace de l'autel pendant 7 jours et la fête pendant 7 jours. Le 23e jour, verset 10, le 23e jour du 7e mois, donc juste après la fête, Salomon renvoyait dans ses tentes le peuple joyeux et content pour le bien que l'Éternel avait fait à David, à Salomon et à Israël, son peuple. Joyeux et content. Ils avaient passé une très bonne fête. Et ils avaient même reconnu que c'est l'Éternel qui avait fait le bien, qui avait béni. Et la suite de l'histoire, puisqu'ils avaient eu une bonne fête, ils avaient réussi pour assainir leur fête, ça, la suite de l'histoire, c'est que ces dispositions ont duré, la 11e année de Salomon, ont duré un certain temps. Et nous arrivons plus tard à la vieillesse de Salomon. Et Salomon a commencé à rendre culte à d'autres dieux. Son cœur n'était pas intègre, son cœur n'était plus intègre, son cœur n'était plus entier vers son Dieu. Et il avait un autre lieu pour les idoles. Par exemple, Chémos et Moloch. Et quand on arrive, après la mort de Salomon, juste après la mort de Salomon, quand on arrive à l'époque de Roboam et de Jéroboam, nous voyons avec quelle facilité le royaume d'Israël a abandonné Dieu et est parti dans l'idolâtrie. Il n'y avait pas un après-fête réussi à ce moment-là. J'ai voulu donc mettre ceci en parallèle avec une autre époque où il y avait un après-fête vraiment réussi. C'est à l'époque de Néhémie. Donc nous allons regarder Néhémie, et on va regarder Néhémie chapitre 8, Néhémie chapitre 8, et le verset 15. On va commencer avec le verset 15, Néhémie chapitre 8, et le verset 15. Alors je commence peut-être avec le verset 14 pour voir le contexte. Verset 14, Néhémie 8, 14. Et il trouvait écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du septième mois et proclamer cette publication dans toute leur ville et à Jérusalem. Aller chercher la montagne des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de myrte, des rameaux de palmiers et des rameaux d'arbres tout fous pour faire des tentes comme il est écrit. Donc ils avaient à cœur aussi de célébrer la fête des tabernacles. Verset 16. Alors le peuple alla chercher des rameaux, ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans leur cour et dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Ephraïm. Verset 17. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes, et ils habitèrent sous ces tentes, depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil, et il y eut de très grandes réjouissances. Eux aussi ont réussi leur fête. Verset 18. On commence à voir quelque chose qui est exceptionnel pour l'époque. Verset 18. On lut dans le livre de la loi de Dieu, chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours, il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela est ordonné. On voit qu'il y avait autre chose qu'uniquement une réjouissance physique. Ils avaient accès, et on le lisait, le livre de la loi de Dieu chaque jour. Chapitre 9, verset 1. Je suis toujours impressionné quand je vois ce verset. Parce qu'il s'agit ici d'un peuple physique qui n'avait pas le Saint-Esprit. Un peuple qui avait souffert et qui avait à cœur de suivre la loi de Dieu. Et ici, juste après la fête des tabernacles, juste après, le 24e jour du même mois, chapitre 9, verset 1, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ils étaient concernés par le fait de mettre en pratique, le fait de vivre selon la loi de Dieu. Ils avaient à cœur la loi de Dieu et ce qu'ils avaient appris, et ils voulaient aller plus loin. Ils voulaient améliorer leur vie, ils voulaient changer leur vie, ils voulaient avancer. C'était une période de renouvellement spirituel. Ils avaient à cœur de faire la volonté de Dieu. Ils étaient imprégnés par la loi de Dieu. Chapitre 9, verset 4. Josué bannit Kadmiel, Shebania, Buni, Sherebia, Bani et Kenani montèrent sur l'estrade des Lévites et crièrent à haute voix vers l'Éternel le Dieu. C'était le Dieu à ce moment-là. Verset 5. Et les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Hashabnia, Sherebia, Hodija, Shebania et Petatcha dirent, levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. Ils ont concentré le tout sur Dieu. Que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Votre Dieu, c'était du relationnel. Chapitre 9, toujours, verset 17. Verset 16 déjà. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leur cou. Ils n'écoutaient point tes commandements et refusaient d'obéir et mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leur cou. Et dans leur rébellion, ils se donnaient un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas même quand il se fit un veau en fente. On montre ici, dans le chapitre 9, la fidélité de Dieu. On montre sa miséricorde. Toujours le verset 18, même quand il se fit un veau en fente et dit, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte et qui se livrait envers toi à de grands outrages. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert, et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. On parle également dans le chapitre 9 de l'infidélité du peuple, verset 26. Verset 26, toujours le même chapitre. Néanmoins, ils se soulevèrent et se revoltèrent contre toi, ils jetèrent ta loi derrière le dos, ils tuèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi et se livraient envers toi à de grands outrages. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les opprimaient, mais au temps de leur détresse, ils criaient à toi, et toi tu les entendus des hauts des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauvèrent de la main de leurs ennemis. L'immense miséricorde de Dieu, et ce peuple avait beaucoup souffert, sont revenus de la captivité, et ils voulaient construire, développer une relation avec Dieu. Il y avait vraiment, vraiment une après-fête où qu'ils ont réussi. Qu'ils ont vraiment réussi. Verset 38. Mais les Juifs qui sont revenus de la captivité avaient un autre état d'esprit. Verset 38. Pour tout cela, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leur sceau. Ils avaient à cœur de changer leur vie. Il y avait cet élan qui a commencé à la fête, et même avant la fête des tabernacles, qui a continué. Ils ont jeûné. Et donc, nous retrouvons la même chose que ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Premièrement, ils avaient le zèle. Ils avaient le zèle pour le Dieu. Et deuxièmement, ils étaient conscients de la réalité de Dieu. Parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé à leur peuple. Et comme ils sont partis en captivité, parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Et Dieu était donc très présent dans leur vie. Ils ont continué avec l'élan qui a commencé même avant la fête. Ils ont construit. Ils avaient à cœur de chercher Dieu. Ils ont gardé leurs yeux sur Dieu. Ils ont progressé par voie des conséquences. C'est ce que nous, on devrait également faire. Progresser en ayant le cœur tourné vers Dieu. Mais regardons le chapitre 10, parce que c'est intéressant, quand on commence à voir les détails, on voit comment ils ont progressé. Verset 28. Néhémie chapitre 10 et le verset 28. Le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les netiniens, et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu. Leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence, se joignirent à leurs frères les plus considérables entre eux. Ils promirent avec serment. Ils avaient vraiment à cœur. Ils voulaient vraiment faire ce que Dieu a dit. Ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu donnée par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. Ils avaient donc pris connaissance d'un certain nombre de choses et ils voulaient mettre en pratique ce qu'ils avaient appris. Et nous aussi, on doit avoir à cœur de mettre en pratique ce que nous avons appris et ce que nous apprenons encore. Verset 30. Nous promîmes de ne pas donner nos filles au peuple du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils, en conformité avec la loi mentionnée dans Deutéronome chapitre 7. Verset 31. De ne rien racheter le jour du sabbat et les jours de fête des peuples du pays qui apporteraient à vendre le jour du sabbat des marchandises ou denrées quelconques et de faire relâche le septième année en exigeant le paiement d'aucune dette. Vous voyez, ils sont allés très loin. Très loin par rapport à ce qu'ils pratiquaient ou ne pratiquaient pas auparavant. Verset 32. Ils sont allés même au-delà. Nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de sicle par année pour le service de la maison de notre Dieu. Quelque chose qui se sent imposé donc. Verset 35. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs de la chambre de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et nos offrandes des fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites, qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Oui, ils étaient très engagés, très fidèles, très motivés, et ils ont beaucoup changé. Et c'était après une fête des tabernacles. Verset 39. Car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes de blé, de mou et d'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire. Elles se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les portiers et les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Et la maison de Dieu, aujourd'hui, c'est son Église. Et nous avons également la responsabilité de ne pas abandonner l'Église, l'édifice spirituel, que ce soit individuellement ou collectivement. Il y a un parallèle par rapport à Néhémie en ce qui nous concerne, c'est que nous aussi, on devait être engagés de se séparer du monde, d'obéir à Dieu dans tous les domaines et de soutenir la maison de Dieu, l'Église, pour que l'Église puisse faire son travail. Il y a autre chose que nous pouvons constater à propos de l'époque de Néhémie, c'est qu'il y avait inévitablement une certaine fraternité. Ils ont fait tout ceci ensemble. Il y avait un esprit d'unité et ils sont restés unis après la fête. Et nous, c'est important pour nous de rester avec cet esprit de fraternité et d'entraide qui était présent à la fête des tabernacles et qui, pour nous, doit continuer. Et c'est une des raisons pour laquelle nous rentrons de la fête des tabernacles, pour pouvoir le mettre en pratique. Nous sommes souvent maintenant éparpillés, mais contrairement à l'époque de Néhémie, nous avons beaucoup de moyens à notre disposition. À l'époque de Néhémie, c'était peut-être difficile d'être en contact avec quelqu'un à l'autre bout du pays. Maintenant, nous avons le téléphone, l'Internet, Facebook, Twitter, Instagram et beaucoup d'autres choses, et nous pouvons rester en contact. Ce qui compte, c'est de s'intéresser aux autres, d'agir et de montrer cet intérêt pour les autres. Parce que il ne faut pas oublier que les gens que nous avons rencontrés à la fête, ce sont nos frères et nos sœurs. Et peut-être nous avons rencontré de nouvelles personnes avec leurs propres difficultés. Bien sûr, il y a parfois la barrière de la langue. Mais si nous avons appris un certain nombre de choses, nous pouvons déjà prier pour ces personnes. Il faut donc que nous puissions utiliser l'inspiration, la nourriture spirituelle, la fraternité, l'amour qu'il y avait à la fête pour avancer sur le chemin qui va vers le royaume, pour que nous puissions progresser, et pour que l'hiver aussi soit riche spirituellement, productif et positif. Nous rentrons pour construire, pour édifier et pour bâtir le caractère divin dans nos vies, et de développer de meilleures relations avec Dieu et avec notre prochain, avec des membres de l'Église qui sont nos frères et sœurs, et avec des gens du monde qui seront nos frères et nos sœurs de demain.